Actu SF, les podcasts.
Bonsoir tout le monde, sans exception. Voilà, je vais vous parler brièvement de la science-fiction algérienne, l'idée de la science-fiction en Algérie. Donc c'est un domaine plutôt récent, c'est un genre qui a eu...
Hello.
Donc c'est un genre qui a trouvé beaucoup de difficultés. Vous excuserez d'abord mon français parce que j'ai pas tellement l'habitude de parler en français. Je parle beaucoup plus en arabe. Sometimes in English. Ok, donc c'est un genre qui a trouvé beaucoup de difficultés à trouver un écho, à intégrer la littérature algérienne. Donc malgré des origines assez intéressantes dans notre histoire culturelle en Algérie. Alors pour ce plan, je vais parler des origines, donc c'est dont je parlais tout de suite. Donc après les pionniers, les pionniers c'est des écrivains, ce qui explique le titre d'après. Donc c'est des écrivains qui écrivent en français. Mohamed Dibé, Safia Ketou. Après j'ai appelé ça, c'est une petite coquetterie d'écrivain comme ça, j'aime bien me faire plaisir. L'Empire arabe contre-attaque, donc c'est le passage du français vers la langue arabe, donc la langue arabe qui s'empare du genre occidental. Après, j'ai parlé de la naissance très difficile d'un club de science-fiction, j'en parlais assez, du fandom, donc d'un genre en mouvement comme ça. Après, je parlerai de la nouvelle génération. Je suis l'un des deux représentants les plus présents. Donc, c'est Nabil Dadoua et moi-même. Donc, le club qu'on a fait, j'en parlerai, je donnerai quelques détails. Donc, du travail assez important de ce club et du rôle que ce club a joué dans l'installation donc, de la science-fiction en Algérie. Après, donc, je parlerai de la prolifération de ces écrivains. D'écrivains, surtout à partir de l'an 2000-2002. Donc je parlerai aussi sous le titre Fascination des vétérans devant vous ici. Donc des grands écrivains qui se sont mis bizarrement à écrire de la science-fiction. C'était plutôt inattendu. L'un d'eux très connu, c'est Boualem Sainsal, donc avec 2084, La fin du monde. Et je conclurai, donc elle est toujours la nouvelle génération donc, qui prend la flamme. Donc chez nous il y a un petit détail ici, j'ai commencé avec un petit détail assez intéressant. Donc c'est un double patrimoine anthropologico-religieux fait que l'Algérie soit un espace où les légendes ont toujours supplanté la philosophie. Donc il y a toujours eu un grand débat autour du fait que notre culture algérienne soit une culture de parler, une culture de poésie. Il y a beaucoup de poèmes, mais peu d'écrits. Aussi loin qu'on peut revenir, il y a peu d'écrits donc philosophiques ou théoriques comme ça. Et donc des historiens comme ça ont expliqué ça par le fait que c'est à travers ces poèmes et à travers la fiction qu'on a présenté nos textes philosophiques, notre approche philosophique du monde. Donc il y a un grand débat qui a toujours été donc en circulation chez nous, ainsi donc des écrivains de l'ère romaine qui sont devant vous, Apulée, Maxime de Landor, Octave de Milève. Donc ce sont des gens qui sont philosophes, philologues aussi, grammairiens, et qui utilisent dans leur exposé, souvent ils utilisent donc la fiction ou la narration pour expliquer. Il y a une tendance narrative au sein d'écrits qui ne sont pas narratifs et dans lesquels on ne s'attend pas à la narration du tout, donc comme la philosophie ou les textes religieux. Donc et ça, j'ai lu un petit peu ça avec l'idée de Socrate écrit devant vous. Donc c'est connu là quand il a été interrompu par un quelconque détail. Et après en revenant à ses moutons, on lui il dit alors je continue mon exposé où je vous conte une histoire. Comme quoi à un certain moment de l'exposé, on peut raconter une histoire pour dire la vérité ou pour énoncer une vérité quelconque. On peut raconter une histoire ou faire un exposé donc scientifique, logique, etc. Donc je me suis arrêté un petit peu avec Apulée. On l'appelle Apulée de Mador. Mador, c'est l'Algérie. Donc chez nous, c'est Apulée l'Algérien. L'Andor, c'est pas un roman de science-fiction, pas du tout d'ailleurs, mais on pourrait l'associer aux idées de science-fictionnelles, aux idées SF. Bon, j'ai dit qu'il y a une association d'ordre générique, parce qu'il y a des mutations génétiques, et à un certain moment, c'est l'histoire donc de Lucius, là, qui est l'alter ego d'Apulée. Que sa bien-aimée, sur lequel sa bien-aimée a jeté un sort, et il devient un âme tout en gardant sa conscience d'homme. Donc il y a une petite mutation. Et elle est magicienne ou sorcière, mais elle parle beaucoup avec beaucoup de jargon scientifique. Donc elle est à mi-chemin entre une sorcière et une chimiste, quoi. Ouais, une savante. Pour elle, c'est de la science qu'elle pratique. Et elle lui dit tout le temps, elle lui dit, moi, je vais trouver un moyen pour rétablir les choses et tout. Et donc après, c'est un conte philosophique où il casse, il fait un pas assez intéressant, où il casse une image comme ça du philosophe, du grammairien et tout. Une image aussi du platonicisme, parce que c'est un disciple de Platon. Il raconte des histoires comme ça, farfelues, plein de sexe et tout. Donc il y a aussi, on pourrait associer Apulée à la science-fiction, j'ai appelé ça une association octoriale, comme c'est une œuvre de fiction unique d'un philosophe rarement associé à la fiction et dans le domaine arabe, aussi bien que dans le domaine universel, on a toujours ça, ce philosophe qui écrit une œuvre et l'œuvre elle devient un petit peu plus importante que toute sa philosophie. Quand on dit Apulée, en général, c'est l'Andor et on oublie que c'était à la base un linguiste ou un philosophe. Donc il y a aussi il y a beaucoup de cas de figure dans la langue arabe, j'y arrive tout de suite. Et donc dans la culture universelle, on pourrait citer Thomas More, on a oublié tout son travail. Mis à part ça, les Bacon, les Platon, etc., etc. En arrivant à Voltaire aussi. Donc il y a aussi le test de l'iconoclastie, j'appelais ça. C'est une œuvre comme ça, iconoclaste, ayant choqué. C'est toujours le cas de la science-fiction. Ça a été le cas avec Frankenstein de Mary Shelley, qu'elle a d'abord publié sous un pseudonyme avant de publier sous son propre nom. Il y a toujours un côté choquant comme ça qu'on trouve chez Apulée. Donc il y a un côté choquant comme ça qui fait qu'on a envie de dire quelque chose qui sort complètement différent comme ça, qui sort des sentiers battus. Donc au point où Saint-Augustin, c'est vers la fin, a complètement dit, très sérieusement, il n'est pas exclu qu'Apulée eût été transformé en bourricot. C'est vrai que ce n'est pas seulement de la fiction. Donc il y a aussi un contexte arabe, j'essaie ici donc de dresser un petit tableau donc, de l'idée de la science-fiction, comment est-ce qu'elle a ou pourquoi, malgré tout ce qu'il y a devant nous comme ça, on a une certaine réticence en Algérie, réticence vis-à-vis de la SF. Donc, dans le contexte arabe, je crois que l'ami Kautar a fait un exposé assez intéressant sur la chose. Donc, la science-fiction est considérée comme composante enracinée dans la culture de la nation arabe. Donc, même Lucien, donc, qui est un écrivain romain, on l'appelle chez nous, dans les livres en arabe, on l'appelle Lucien Souri, le Syrien. Donc, on revendique son appartenance au pays arabe. Donc, le corpus, le Coran, qui est un corpus très présent dans la culture. Dès qu'on écrit quelque chose, on doit, dans notre culture arabe, on doit se référer un petit peu au Coran, faire comme ça des références, donc on doit dialoguer avec le contenu coranique et tout. Donc le Coran, j'ai dit, c'est devant vous, que c'est plein de détails qui se jouent de la réalité, donc cette perception, contenu subversif, l'idée de l'étrange, la conception du temps, la conception du lieu, donc tout ça, dans ces textes, il y a une... Il y a un verset très connu où il dit un jour de Dieu est mesuré par 1000 jours donc de votre. Donc un jour est égal à 1000 jours de ce que vous pouvez mesurer. Donc il y a beaucoup de ça, surtout donc les images de l'autre monde. Donc très très répandu. Il y a beaucoup de textes qui vont dans cette direction. Aussi, j'ai parlé des textes du prophète, des commentateurs et tout. Ça, c'est très présent. J'en parle parce que c'est très présent dans notre culture. Il est rare que quelqu'un, je vais d'ailleurs, l'un des premiers textes que je vais citer, donc il fait beaucoup de références à ce genre de background culturel, quoi. Donc, nous avons deux textes dans notre culture qui sont Al-Madin al-Fadila du Al-Farabi, donc il est cité dans, sur la diapo là, Al-Farabi. Al-Madin al-Fadila, cité parfaite, qui fait écho un petit peu à la République de Platon. Très connu, donc c'est un texte philosophique qui est aussi un texte, une utopie parfaitement parfaite. Donc il imagine tout, comment est-ce que les relations doivent être entre les gens, comment on doit penser le politique, la culture, le droit commun, etc. Donc c'est un texte assez riche, très très connu, qui fait aussi plateforme science-fictionnelle, je dirais, si je peux me permettre. Donc, à la science-fiction, les mille et une nuits aussi. On a carrément dans les mille et une nuits un conte où on raconte qu'il y a une ville sous forme de bulle. Et ça a été écrit pendant le 9e siècle, je crois. Donc, une ville où il y a des gens qui vivent sous la mer, dans une sorte de sous un dôme comme ça. Ça s'appelle Abdallah al-Barri, Abdallah al-Bahri, donc Abdallah qui vit sur la terre et Abdallah qui vit dans la mer. Donc et ça, c'est de la science-fiction pure et dure. Et il y a beaucoup d'ouvrages, comme j'ai dit, et surtout sur l'épître du pardon, Abu al-Ala al-Mahri. Là, c'est un voyage que le poète fait lui-même. Ça ressemble un petit peu au voyage de Virgile, et on a même dit que ça a été écrit 2 siècles avant Dante Alighieri, donc on a même dit que ça a été traduit en Andalousie. Donc il y a beaucoup de gens chez nous qui disent que peut-être que Dante a eu vent de ce, parce qu'il y a beaucoup de similitudes aussi. Donc il y a aussi le voyage dans le Six, là, quelque chose comme le Six, comme ça, le voyage donc. Dans l'enfer, le dialogue avec les gens qui sont en... C'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes motif donc qu'il y a dans le, la comédie divine. Moi, je vais sauter sur ça. Le premier à avoir écrit chez nous de la science-fiction, c'est Mohamed Dib. Donc, ça, c'est son roman qui se souvient de la mer. C'est une œuvre contre-utopique, comme ça, une œuvre qui dépeint une Algérie fatiguée par la guerre, par la colonisation, et qui a du mal dans le cas. Ça a été écrit en 62, c'est l'année de la libération de l'Algérie, donc de son indépendance. Et ça a été lu de plusieurs façons. Il y a ceux qui ont dit que Mohamed Dib a écrit ça contre les révolutionnaires qui ont libéré l'Algérie, parce que c'était pas bienvenu d'écrire quelque chose d'aussi noir, d'aussi ténébreux que ça, alors que les gens sont là à ululer, à chanter donc l'indépendance. Lui, il a souvent parlé de son œuvre ici, donc comme un truc symbolique qui dit la vérité de l'Algérie au lendemain de l'indépendance. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que tous les éléments qui font qu'un travail soit un travail de science-fiction sont ici présents. Donc, il y a des éléments comme ça devant vous. Donc, ça fait écho aussi à Wells, donc le voyageur du temps, parce qu'il y a aussi un monde souterrain et un monde d'en haut, les gens du souterrain qui vivent dans une certaine obscurité, voire obscurantisme, et les autres qui les dominent. Donc c'est un petit peu les mêmes éléments fictifs, fictionnels que ceux de Wells. Donc c'est un cadre, donc j'ai écrit une petite remarque donc critique ici pour expliquer donc pourquoi est-ce qu'un écrivain comme Mohamed Dib, qui était très connu à l'époque, c'est le plus grand écrivain du moment, donc a recours à ce genre donc de fiction scientifique, où donc lui qui s'est fait un grand nom donc grâce à des œuvres réalistes. Je me suis donc dit que c'est un monde que le réalisme n'a ni connu ni appris à apprivoiser. D'où donc ce besoin d'aller plus loin que le simple réalisme comme ça. Donc on a une écrivaine très importante en Algérie qui s'appelle Safia Kétou. J'ai dit pionnière à sa manière, parce que son signe distinctif, c'est que son livre est sorti avec la mention science-fiction. Mohamed Dib, il a parlé plusieurs fois de son œuvre without mentioning that it was science fiction. Quant à Safia Kétou, aux prières d'insérer, il y avait la mention science-fiction, et même la mention la première femme à avoir écrit. Donc c'est certainement une petite remarque de l'éditeur, mais bon. Les choses sont comme ça, donc c'est la première femme à avoir cité le mot science-fiction sur son livre. Après donc le choix du titre, comme il y a 17 nouvelles, 6 nouvelles donc, sont des nouvelles de science-fiction, les 11 autres ne le sont pas, et elle a donc choisi que son ouvrage s'appelle « La planète mauve ». Et du coup, beaucoup la considèrent comme la vraie pionnière donc de la science-fiction en Algérie. J'ai dit donc que c'est titre de ces nouvelles mêlant aventure, vision utopique, l'univers extraterrestre, rêve d'enfance, cauchemar, etc. Elle s'est suicidée en 89, malheureusement, un suicide. Sans détail, jusqu'à maintenant on ne sait pas ce qui s'est passé. Et elle, avant ça, elle annonçait donc plusieurs travaux qu'elle était en train de préparer. Du coup, et il y a une remarque très importante, c'est que son texte le plus ancien, il est de 1967, il est cité devant vous. Donc c'est Vika, reporter spatial. Donc ça revient aux années 60, encore une fois. Le livre a été publié en 83 au Canada. Donc voilà, les thèmes des nouvelles. C'est un petit peu le monde de cette femme qui vivait mal, un petit peu comme ça, qui cherchait un autre monde pour essayer de respirer. Là, j'ai appelé Habib Moussi, il écrit en arabe, donc il a ce roman, Jalalatu al-Abul Adam, Sa Seigneurie le Père Suprême, de 2002. Ça, historiquement, c'est le premier roman de science-fiction arabe. Je reviendrai aux années 90. J'ai juste avancé cette partie donc pour rester dans la ligne des pionniers, comme j'ai dit. Donc, c'est un texte très riche, texte étrange qui dépeint un monde totalitaire, un thème répandu un petit peu dans la tradition de science-fiction, contrôlé par un homme comme ça. C'est la reprise de l'histoire de Pharaon et de Moïse, ce thème biblique, voire coranique, dans le Coran aussi. Il y a beaucoup de détails sur leur relation. Et il est à rappeler, bon, j'ai fait le lien entre ce roman et entre George Orwell. Parce que le titre là, Al-Abul Adam en arabe, le Père suprême, pourrait être aussi le Big Father au lieu de Big Brother. Adam al-Nas, ça veut dire en arabe, ça peut être suprême ou grand, etc. Donc ça peut être traduit le Big Father. Et il y a beaucoup, j'insiste beaucoup dans la science-fiction, j'insiste beaucoup sur les motifs. Il y a beaucoup de motifs donc qui rappellent un petit peu ce monde où tout est contrôlé, l'ultra-contrôle des gens, personne ne bouge sans que donc ce père suprême soit au courant des moindres de ces détails. Ça rappelle un petit peu donc le monde de George Orwell. La trame donc prend après l'installation de cette histoire, la trame prend un autre parcours pour revenir au contenu biblico-coranique, allez, je vais dire comme ça, dans la mesure où le jeune personnage qui prépare la révolution s'appelle Moïse, tout court, donc il n'y a pas photo. Donc c'est des thèmes bibliques, ou devrais-je dire coraniques, comme ceux de Moïse, Mémoire, Babel, et même des thèmes modernes comme celui de Frankenstein, parce qu'il y a un travail très important sur le corps dans ce roman assez intéressant, récupéré comme réservoir symbolique polysémique. Il est à noter que cette culture arabe, trop longtemps qualifiée par les orientalistes par son matérialisme pathologique, donc il y a un double écho comme ça, j'ai dit ça. Autrement dit, les gens trouvent un écho dans cette culture, tandis que celle-ci y trouve une tribune. Donc, c'est une culture qui revendique son côté métaphysique et abstrait, transcendantal et tout. Il y a aussi un bon usage de l'outil de science-fiction pour donc exprimer quelque chose de très actuel, donc le nouvel ordre mondial. Bon, avant ça, quelques années avant, j'ai contribué, j'ai présidé donc quelque chose qui s'appelait le Club de la science-fiction algérienne, une sorte de fratrie comme ça qu'on a fait quelques amis et moi, et on a fait énormément de choses, surtout donc dans les. Dans le, c'est le, surtout le, on a travaillé le fandom, donc c'est surtout avec les fans, avec les gens qui s'intéressent sans qu'ils soient des écrivains, people interested in science fiction without being writers. Et donc on a réuni beaucoup de gens autour de nous comme ça, et on travaillait donc dans les les tribunes les plus percutantes à l'époque, c'était la presse écrite. Durant les années 90, il ne faut pas oublier qu'en Algérie, il y avait donc la crise politique, la pseudo-guerre civile. Donc tout le monde achetait, on lisait beaucoup donc, les journaux. Donc dès qu'il y avait quelque chose comme ça sur la science-fiction, et il y a eu des moments où il paraissait, toutes les semaines, il paraissait des textes de science-fiction. On était une douzaine comme ça dans ce club. Et il y avait un travail organisé. Toutes les semaines, il paraissait une nouvelle, une traduction, un texte critique sur la chose et tout. Donc, on a fait bouger. Donc, on nous appelait comme ça d'une manière péjorative, qui est devenue par la suite notre second nom, le groupe de la science-fiction. On disait en arabe, Jamaat Khayal-Ilmi, comme ça, c'était à la limite du péjoratif, mais ça a fait que la chose qui était tellement loin est devenue donc notre réalité. Et si à l'époque quelqu'un disait qu'un jour un de ces jeunes gens irait parler dans l'Eurocan de la science-fiction et de ça, bon, on aurait dit ça c'est de la science-fiction déjà. Ça, là-bas, c'est de la science-fiction. Donc, c'est pour dire que la science-fiction, les trucs de science-fiction finissent toujours par se réaliser. Donc, c'était une sorte de fratrie. C'est un club qui n'avait pas de statut officiel. Donc, on était des amis, on était en contact et tout. Et on avait une action coordonnée comme ça. Une association morale, comme j'ai appelé ça. Les membres du club... Par la suite, en 1996, il y a eu quelque chose d'important. Moi-même et un ami, on a fondé un journal qui s'appelait le seul journal culturel de l'époque. C'était une époque sanglante en Algérie. Il y avait donc les chars comme ça, des gens qui mouraient tous les jours et tout. Donc, c'était pas du tout un contexte favorable à la naissance de la science-fiction. Et avec ça, je ne sais pas, c'est comme dans la science-fiction, les choses ne sont pas toujours... explicable. Donc, on a fondé un journal culturel et donc c'était le contexte politique ne permettait même pas aux gens d'avoir une licence pour créer un journal. Un journal c'était trop important à l'époque, donc il y avait que donc c'était pas évident d'avoir l'agrément pour un journal et on a eu l'agrément facilement, simplement sans relation comme ça, on a juste mis un petit dossier, on nous a appelé, oui vous avez l'agrément. Par la suite on a essayé d'acheter cet agrément pour l'utiliser parce que tout le monde voulait avoir des agréments de journaux et c'était pas possible, oui, politiquement, donc c'était la loi martiale, c'était un peu l'enfer chez nous. Donc ce journal, comme moi-même et mon ami Ahmed Khartoum et plein d'autres amis, on était donc férus de science-fiction. On a fait une rubrique de 3 pages, c'était immense pour la chose et pour la période. Donc 3 pages permanentes qui s'appelaient Espace de la science-fiction, où donc on faisait paraître, ça c'est les membres qui sont les plus actifs, qui sont restés écrivains, il y a d'autres qui ont laissé l'écriture et tout. Donc c'est moi-même, Ziria Boukefa, il vit à Marseille au jour d'aujourd'hui, Nabil Dadoua qui est devenu éditeur et qui a édité beaucoup de nos livres, etc. etc. Donc, les 2 années où on a fait paraître le journal, donc c'était de 96 à 98, donc on a fait beaucoup de choses, on a créé un petit réseau d'échange littéraire comme ça, on a alimenté un petit peu au sein de notre journal et même à
l'heure. Attends 2 secondes, je ne sais pas si on va se faire dire à 8h, mais il est 8h moins 2.
Ah, d'accord.
Je ne sais pas si on se virait ou pas.
Non, on ne se fait pas virer. On va pousser quelques 10 minutes, pas plus. Donc on a créé comme ça une ambiance favorable à la naissance de quelque chose. Parce que avant, pour vous mettre donc dans l'ambiance, avant c'était à la limite du ridicule de parler de science-fiction en Algérie. juste avant, c'était à la limite de ridicule. Pourquoi? On nous disait tout le temps, comment ça, il y a des gens qui meurent, parlez-nous de notre état et tout. Bon, et nous, on répétait tout le temps, dans la sous-fiction, c'est aussi pour parler de la réalité, mais elle a son propre usage, donc on doit s'éloigner un petit peu des choses pour mieux les voir, mieux les regarder, mieux les voir et mieux les penser. Mais donc, on ne nous entendait pas du tout. Donc c'était, parlez-nous donc de la mort, de la politique, des islamistes, de l'État, des chars et tout, c'est tout ce qu'on voulait entendre. Et toute la littérature donc, d'urgence qui paraissait en ce temps-là était donc axée sur ça. Mais alors du coup, quand tu fais paraître un roman comme ça qui parle d'autre chose, ou d'amour, ou de psychologie, ou de c'est pas, on te dit, bon, là tu es hors sujet, quoi. C'est pas, le contexte n'est pas favorable à ce genre de... Ça, c'est très important donc, pour comprendre ce qui s'est passé pendant ces années-là. Je vais aller un peu plus vite. Donc, ça, c'est le roman le plus important de mon ami Nabil Dadoua. Il s'appelle Les Belles Paroles, Kalimat Jamila. Ça, c'est la version arabe. Donc c'est un roman selon les traditions pastorales, donc c'est un roman qui parle de petits gens, donc la campagne et tout. Et après il y a donc, il intègre un petit élément comme ça, la tradition orale parle donc d'une légende qui dit que toutes les belles paroles ont été ramassées et chassées de notre monde, et on fuit quelque part sur la planète Vénus. Et il se met, le protagoniste, un jeune homme, un fou de maths et de physique, il se met donc à, comme, un petit peu comme Noé, à construire son arche pour aller, donc, son vaisseau spatial, pour aller sur Vénus, donc rapatrier les belles paroles. Du coup, ce roman, un court roman, est très important, très intéressant, dans la mesure où il est très bien écrit. Il y a toujours donc cette étiquette collée sur la science-fiction, on dit « beautiful stories, bad writing », donc on dit toujours ça. Donc ce roman-là, c'est exactement exactement la correction de ce cliché. Ça c'est moi, ça c'est Faisal Lamer, ici présent. Moi donc en Algérie, donc dès qu'on parle de science-fiction, on parle de moi, comme j'ai donc fait paraître d'abord en 2002, cette année assez importante, j'ai fait paraître donc Chronique d'ailleurs, ce qui est un livre de nouvelles. Dans 2002, ce roman très très connu en Algérie, dans le monde arabe, il vient d'être réédité pour la troisième fois en Égypte. Et donc c'est un roman que je suis allé présenter un petit peu, même en Amérique, j'ai présenté ça. C'est bizarre, mais ça s'est fait en 2015. Donc je suis allé présenter ça à l'université de Virginia. Donc j'ai été invité par des gens qui me connaissent, bien sûr. Donc c'est un roman, ça aussi c'est un roman assez intéressant parce que c'est un roman expérimental. Il est écrit comme une étude critique. C'est l'histoire Amin Lalawani là, c'est le nom propre, c'est le nom d'un écrivain. Alors je ne sais pas, sur la couverture, vous pouvez apercevoir entre le titre et le nom de l'auteur quelque chose qui est raturé comme ça. Donc ça c'est le nom à l'envers, c'est un autre nom, donc Malik al-Adib. Malik al-Adib, il est censé être un critique littéraire qui a écrit une biographie de cet écrivain qui est né en 2017. Et la biographie est écrite donc en 1996 ou 1997. Donc après, c'est la récupération, donc une rétrospective de toute la vie littéraire durant le 21e siècle. Et le roman devient la jaquette d'une étude biographique, critique et tout, écrite comme selon le langage des critiques littéraires. Sauf que tout ça, c'est de la fiction. Oui, en 2008, oui. Ça a été réédité en 2011 en Algérie encore une fois et en 2017 en Égypte, ça a eu un bon retentissement. Donc après, donc j'ai deux livres. À gauche, donc il y a ce livre-là, Théorie et critique de la science-fiction, tous les deux parus cette année. Et à droite, il y a un livre très intéressant où il y a même Madame Kauthar Ayad et son père là. Vous pouvez même apercevoir la photo de Pierre Gévard. Voilà. Donc même Pierre a écrit quelque chose sur la science-fiction arabe. Que j'ai traduit donc en arabe, c'est un livre très attendu pour l'automne, donc il vient de paraître. Et deux autres travaux, donc ça c'est ma traduction d'Aldous Huxley, il a été traduit pendant les années 50, mais c'était une traduction vulgarisatrice, donc c'était tout le background scientifique et philosophique a été désossé. C'est une œuvre qui a été désossée pour être présentée donc à un lecteur, un large lectorat comme ça. Donc j'ai retravaillé trois fois ce texte, donc qui a aussi été édité à trois reprises. La première fois en 2009 en Algérie, 2012 en Algérie aussi, et en 2016 en Syrie. En pleine guerre, ça c'est une histoire de science-fiction encore une fois. Et là, c'est un livre sur mon parcours qui a été fait par une prof algérienne. 5 minutes. Ok. Très vite, donc après, durant les années 2000, comme j'ai dit, il y a eu une propagation comme ça de l'idée. Donc ça, c'est un livre qui a été traduit en arabe d'ailleurs. C'est un livre qui a eu un bon retentissement en Algérie, Le huitième voyage de Sindbad. C'est une histoire, donc le huitième, après les 7 voyages de mille et une nuits, l'autre voyage, donc c'est un voyage dans l'espace, séparant des mers, etc., etc., etc. Donc on a un jeune écrivain, un jeune génie algérien, Anis Metzaour qui s'appelle, qui a écrit une trilogie. Donc de la fantasy, donc c'était vraiment ça, c'est 20 ans auparavant, c'était difficile d'imaginer une chose comme ça.